quitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver, aunque nos espera el dolor y la muerte, contra el enemigo nos llama al deber. El bien más preciado es la libertad, luchemos por ella con fe y con valor, alza la bandera revolucionaria que llevará al pueblo a la emancipación, alza la bandera revolucionaria que llevará al pueblo a la emancipación. En tiempo el obrero va a la batalla, hay que derrotar la reacción, a las barricadas, a las barricadas.
Salut à toutes et tous, c'est l'émission Lundi Matin et vous êtes bien sûr Radio Libertaire, c'est la radio libre de la Fédération Anarchiste. Bonne fin de matinée à toutes et tous.
et je vois ma mort sourire. Et je la vois m'emmener.
On vient d'écouter Louis Chédid. À l'instant, c'est bien Radio Libertaire, c'est bien l'émission Lundi Matin. Laurent avec vous, donc ce matin. Le thème du jour sera consacré autour d'une anathème que vous avez sans doute reçue, peut-être, ou vous-même délivrée à l'intention de quelqu'un d'autre, à savoir sectaire. Il sera question aujourd'hui, tout à l'heure, à 11h30, du sectarisme. Dans quelques instants, ce sera la rubrique Agenda, se rencontrer, se voir, discuter, réfléchir, agir ensemble. Et tout de suite, une chanson qui est un petit peu liée à l'histoire de Radio Libertaire d'une certaine façon, puisque nous voilà au tout début de la radio en 1980, et un jeune chanteur à l'époque, Louis Capard, passe nous voir au siège de Radio Libertaire et nous apporte un petit 45 tours, et sur ce petit 45 tours, une chanson hommage à sa mère, Marie-Jeanne, là-bas, dans l'île de Saint. Une chanson donc sur sa mère, Marie-Jeanne Gabriel, et plus largement une chanson sur les femmes de l'île de Saint. Marie-Jeanne Gabriel, Louis Capard.
Marie-Jeanne Gabriel, entre la mer et le ciel, battue par tous les vents au ras de l'océan, ton pays s'est endormi. Sur de belles légendes illuminant son histoire, gravées dans la mémoire des femmes qui attendent les marins d'île de Saint. Raconte-nous l'enfant que tu étais, courant du sable fin aux galets. Parle-nous de ces jeunes gens sautant les feux de la Saint-Jean. On pouvait croire au paradis en ce pays. Chante-nous si tu t'en souviens pour passer le ras de Saint, le cantique à Sainte-Marie qu'on ne chante qu'ici. Marie-Jeanne Gabriel, entre la mer et le ciel, battue par tous les vents au ras de l'océan, ton pays s'est endormi. Sur de belles légendes illuminant son histoire, gravées dans la mémoire des femmes qui attendent les marins d'île de Saint. La peine et l'ennui de l'automne à l'été, on ne vit qu'au rythme des marées. De la naissance au grand sommeil règne le flambeau de la vieille. On mêle la cannelle au parfum des chandelles. On dira pour embarrasser la mort, joie au trépassé, car sur cette terre fidèle, les âmes vont au ciel. Marie-Jeanne Gabriel, entre la mer et le ciel, battue par tous les vents au ras de l'océan, ton pays s'est endormi. Sur de belles légendes illuminant son histoire, gravées dans la mémoire des femmes qui attendent les marins d'île de Saint. Quand le jour s'achève au-dessus de la grève, sur la pierre écorchée de l'île, on croit voir au fond de la brume comme des feux qu'on allume, ou la barque ensorcelée qui apparaît menaçant. Elle vient jeter la peur sur les naufragés, et le noir habille la vie des femmes du pays. Marie-Jeanne Gabriel, entre la mer et le ciel, battue par tous les vents au ras de l'océan, ton pays s'est endormi. Sur de belles légendes illuminant son histoire, gravées dans la mémoire des femmes qui attendent les marins d'île de Saint. La vie a changé sur le court chemin du Nérote à Saint-Corentin. On ne reste plus très longtemps isolé du continent. Même les anciens ne reviennent qu'au printemps. Et la mer a tourné le dos aux pêcheurs des temps nouveaux. Elle entraînera les marins loin de l'île de Saint. Marie Paris, Jeanne Gabriel, entre la mer et le ciel, battu par tous les vents au ras de l'océan, ton pays s'est endormi. Il garde son histoire au plus profond des mémoires, et l'on dit à Paris qu'il est beau le pays des marins, l'île de Saint.
L'agenda, se rencontrer, se voir, discuter, réfléchir, agir ensemble, avec le petit rappel hebdomadaire vous invitant à soutenir la station, à vous rendre sur le site de la radio, radio-libertaire.org, et à la rubrique Nous soutenir, vous trouverez le moyen, si vous le pouvez, si vous le souhaitez, de soutenir la station sous forme d'un prélèvement automatique selon vos possibilités et mensuellement. Que vous dire ? Alors, des rendez-vous, bah oui, des rendez-vous, aujourd'hui, plus précisément, demain, ça va se passer, donc, le 9 décembre, hein, ça sera à 19h, ça sera au CICP, le Centre International des Cultures Populaires, au 21 Terre, rue de Voltaire, dans le 11e arrondissement. Ça sera la 10e Assemblée internationaliste antimilitariste Paris-Banlieue. Vous êtes invité à rejoindre cette Assemblée internationaliste et anti-autoritaire pour construire un antimilitarisme depuis Paris et sa banlieue. C'est donc le deuxième mardi de chaque mois, donc ça sera ce mardi 9 décembre. Donc c'est une assemblée ouverte, autonome, antimilitariste, qui se réunit donc le second mardi de chaque mois, je vous l'ai dit. Et inutile de développer plus son importance par les temps qui courent actuellement, où les bruits de bottes, le militarisme, sont là partout dans la vie, dans la société, dans les médias. Donc mardi 9 décembre, 19h, au CICP. Autre rendez-vous ça sera le 9 aussi, il faudra faire un choix, ça sera à 19h30, une rencontre autour d'un livre paru récemment de Azadi, c'est le nom de l'auteur, ça s'appelle « Leçons kurdes, les damnés des montagnes », c'est paru aux éditions La Fabrique, et donc à l'occasion de ce livre, de la sortie de ce livre, rencontre avec son auteur. Et ça sera donc à la librairie, au café-librairie Michel Firk, 9 rue François de Berg à Montreuil, donc juste à côté du CICP, de La Parole Errante, pardon. Autre rendez-vous encore, et là ça sera à la Sorbonne, l'université donc de Jussieu, plus précisément à l'amphi 34A, mercredi 10 décembre à 18h, un ciné-débat autour des luttes menées par des migrants contre le racisme, pour l'égalité des droits et la solidarité. Ça sera dans le cadre de la préparation de Une journée sans nous, qui renvoie donc au 18 décembre, et à ce moment-là, ce sera, on en reparlera, la journée internationale des migrants. Donc un ciné-débat, l'initiative de Sud Idées Sorbonne, qui vous propose donc de débattre, mais aussi de regarder le film La Balade des Sans-Papiers, qui revient, ce film de 1997, sur l'occupation de l'église Saint-Bernard. Tout le monde s'en souviendra, je pense. Un petit tour maintenant à la librairie Publico. Donc on est au 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement de Paris, métro Oberkampf, République Fille du Calvaire. J'en profite pour redonner les heures d'ouverture de la librairie, du mardi au vendredi 13h-19h30, dimanche 13h-19h30, samedi 10h-19h30, fermeture le lundi. Donc, suite de ce programme du mois de décembre, vendredi 12 décembre à 19h, ça sera un concert, Martha Delano et Andrea Marchesino, on essaiera de les écouter là tout de suite après. Samedi 12 décembre à 17h, ça sera des contes de Louise Michel, mis en musique et revisité par Amanda Art et Olivier Tervagne. Dimanche 14 décembre, ce sera à 16h, dans le cadre de Livre Segui, une discussion avec trois contributeurs de l'ouvrage collectif Penser et agir, avec David Graeber, Construire des ponts entre les sciences sociales. Un livre qui est paru récemment et que vous pouvez bien sûr trouver à la librairie Publico directement ou je pense aussi déjà sur le site de Radio Liberté de la librairie Publico, librairie-publico.com. Le vendredi 19 décembre à 19h, ça sera la présentation du livre La justice du capital quand les multinationales défend la loi, avec son autrice Amina Hassani qui sera présente parmi nous. Et là aussi, c'est un livre qui est paru aux éditions La Fabrique. Et puis enfin, le dimanche 21 décembre, c'est l'émission Lundi Matin et le groupe Libertaire d'Ivry qui vous invite donc à une projection discussion autour du problème du droit au logement, des squats, avec un film qui sera projeté, c'est donc Squat, la ville est à nous. Donc on va s'attarder un petit peu sur cette annonce, sachant que la semaine prochaine, ça sera l'objet donc de l'émission Lundi Matin. Donc projection du film Squat, la ville est à nous. C'est un documentaire qui a été réalisé en 2011 par Christophe Coelho, donc ça sera suivi donc, d'une discussion, bien évidemment. Donc un petit mot sur donc, ce film et cet après-midi-là à la librairie Publico. Nous sommes dans un quartier populaire de Barcelone en proie à la spéculation, mais la scène pourrait se dérouler aussi bien dans n'importe quelle grande ville d'Europe. Gentrification, loyer hors de prix, opération de réhabilitation destinée à remodeler à coups de serpe la population d'une rue ou d'un centre-ville. Pendant 8 ans, de 2003 à 2011, Christophe Coelho a filmé de l'intérieur les actions de Maïs de Viviendas, des milliers de logements, un groupe de flibustiers qui invente mille façons de repousser les murs du possible. Gloria, Vicente, Ada et les autres ne se contentent pas d'investir des habitations promises à la culbute financière. Ils impulsent la résistance à l'échelle du quartier. Collecte d'informations sur les magouilles immobilières en cours, opérations festives de déminage du béton armé, intrusion chez les donneurs d'ordre, tissage de liens de solidarité avec les voisins, comme dans cette jonction improbable et pourtant fructueuse entre les squatteurs et les vieilles dames du quartier de la Barceloneta. Le film parle de la lutte de mai ou pas, de mal ou pas logé, pardon, et contre les inégalités, les injustices en général. Les occupations étant illégales, les squatteurs se trouvent forcément confrontés à une répression plus ou moins violente. Mais n'oublie pas d'évoquer les difficultés en interne. Les objectifs des occupants ne sont pas forcément les mêmes. Il devient de plus en plus difficile de trouver des lieux à occuper, que ce soit des squats, militants ou d'habitation pour les mal logés ou SDF. 4 millions de personnes sont considérées comme mal logées en France. La première forme de mal logement est le fait de vivre dans un habitat dégradé. 2,2 millions de personnes sont concernées. Pas moins de 100 000 personnes vivent dans les habitats de fortune, des cabanes, des campings, etc. S'y ajoutent 200 000 gens du voyage qui ne disposent pas d'air aménagé et vivent dans des conditions souvent particulièrement dures. On compte aussi 20 000 travailleurs immigrés hébergés dans des foyers vétustes en attente de rénovation. À ces très mal logés s'ajoutent ceux qui disposent dans leur logement, mais pas du minimum de confort, soit 1,9 million de personnes. Ces logements n'ont pas d'eau courante, de douche, de WC intérieur, de coin cuisine, ou encore ont un moyen de chauffage défaillant. La deuxième forme de mal logement est le manque d'espace, situation qui concerne plus d'1 million de personnes selon l'INSEE. Enfin, la troisième forme de mal-logement est de ne pas disposer de logement personnel. 1 million de personnes sont concernées, 350 000 n'ont pas de domicile. Parmi elles, la majorité est logée de façon très précaire en centre d'hébergement d'urgence ou à l'hôtel. Une enquête réalisée en 2012 par l'INSEE estimait le nombre de sans-abri à plus de 10 000, mais le chiffre a sans doute augmenté depuis. Et oui, il a augmenté, je le confirme. Une partie de la population française continue à vivre dans des conditions particulièrement indignes. En plus, 25 000 personnes vivent en permanence à l'hôtel, souvent dans de très mauvaise qualité, sans cuisine. Enfin, 643 000 personnes sont hébergées chez des tiers. Elles ne vivent pas nécessairement dans des logements inconfortables, mais elles sont contraintes de vivre chez autrui. Et oui, tout le monde le sait, vous le savez toutes et tous, le logement est bien souvent le problème numéro un pour beaucoup de personnes. Donc autour de toutes ces questions-là, rendez-vous est donné à la librairie Publico pour voir le film « Squat, la ville est à nous ». Et puis, débattre donc de toutes ces questions. L'entrée sera libre, bien évidemment. Voilà pour la librairie Publico. Je rajouterai concernant la librairie Publico que le catalogue d'hiver est sorti. C'est environ 70 titres qui vous sont présentés, une sélection de livres en rapport avec tout un tas de thématiques qui peuvent nous être chères, que vous pouvez trouver sur le site de la librairie Publico. En passant, vous le trouverez sous forme de papier à la librairie Publico ou sur simple demande. On vous l'enverra. Voilà pour la librairie Publico. D'autres rendez-vous, ce sera tout à l'heure, à 13h dans l'émission, c'est là que ça se passe, qui vous donnera et commentera d'autres rendez-vous militants. Du côté de la presse, je vais vous signaler la sortie du Monde Libertaire numéro 1878 pour ce mois de décembre. Avec un dossier important, cette fois-ci, consacré donc au thème de la laïcité. Voilà, un monde libertaire que vous pouvez bien sûr trouver à la librairie Publico. Il est 11h27, c'en est fini de cette petite rubrique agenda. On va donc écouter maintenant, je vous l'avais dit tout à l'heure, Marta Delano et Andrea Marchesino, je vous l'ai annoncé, qui seront donc en concert prochainement à la librairie Publico. 1, 2, 3.
Partagé entre soleil et pluie, et sur l'eau libre du Wannsee se mire aujourd'hui. J'y vois des pages jaunies qui se sont envolées. D'où vient cette peur profonde de
l'esprit?
Aucun pays ni le mien.
Lasciati ascoltare senza filtri che disturbano. Lascia che ci sia concordia o dita per capire come fare. E non solo in questa vita.
On va reprendre dès le début parce qu'il y a eu une petite erreur de ma part et on va écouter intégralement Marta Delano et Andrea Marchesino.
Lascia di vestire di meduse conchiglie, alghe, chilometri di alghe. Lasciati ascoltare senza filtri che disturbano. Lascia che ci sia concordia o dita per capire come fare. E non solo in questa vita. È tutto così naturale, seguire il cambiamento a secondare. Lasciami arrivare al midollo davvero. E come dice la donna, ripulire il pensiero, produce le onde e noi che pedaliamo in acque profonde.
leggiamo il mare, le onde e noi che pedaliamo in acque profonde, di niente ci accorgiamo. Questa vita sarebbe tutto così naturale, volevo un weekend spirituale, lasciami arrivare al ritorno davvero, e come dice la donna, ripulire il pensiero, meduse, le onde e noi che pedaliamo.
Donc le 12 décembre, ce sera donc à 19h à la librairie Publico. Comme d'habitude concernant les concerts, donc l'entrée sera libre, mais une participation au chapeau est toujours souhaitée. Donc je vous l'ai dit en introduction d'émission, qui d'entre vous n'a pas un jour été confronté à cette accusation d'être sectaire? Et d'ailleurs, vous-même, n'avez-vous pas traité un jour quelqu'un de sectaire? Donc il sera question aujourd'hui du sectarisme. Le sectarisme, si on s'en tient donc à la définition du dictionnaire, par exemple, c'est une attitude intransigeante de partisan intolérant d'une opinion ou d'un parti. Donc, sectaire, on l'a tous entendu. Moi, souvent, on m'a traité de sectaire. Vous l'avez été sans doute, et je le disais, peut-être l'avez-vous vous-même donc utilisé. Donc, revenons. Attendez, que je me repère un petit peu dans mes papiers. Voilà, j'ai retrouvé mes petits papiers. Donc, pour commencer par le début, quand on est traité de sectaire, souvent c'est parce qu'on va développer un point de vue, une opinion, une idée, et qu'on va ne pas faire de concessions face à des convictions ou une conviction qui sont les siennes. Donc il faut revenir, je pense, avant même de parler de sectarisme, à l'idée. Et en l'occurrence l'idée libertaire. Et pour commencer par le début, comment devient-on anarchiste? Alors chacun aura son histoire évidemment très personnelle à raconter. Pour ma part, je l'avais déjà évoqué, c'est une des possibilités de rencontrer l'anarchisme, à savoir que pour moi, ça a été une rencontre au lycée avec donc un camarade de classe qui était anarchiste, qui a été pour moi une rencontre extrêmement importante donc dans ma vie, dans un contexte qui était à l'époque donc celui d'un lycée rouge, comme on disait, en banlieue, dont on disait aussi qu'elle était tout aussi rouge d'ailleurs. Et donc un camarade qui m'avait fait lire Front Libertaire, à l'époque, Front Libertaire de la lutte des classes, et puis également le Monde Libertaire. Et puis, disons que les journaux ne m'avaient pas spécialement convaincu, pour être honnête. Et puis, il m'avait passé donc un petit bouquin qui a eu, lui aussi, beaucoup d'importance, je pense, pour beaucoup de générations d'anarchistes, à savoir, c'est celui de Daniel Guérin. Daniel Guérin, donc un livre à l'époque qui était paru dans la collection ID Gallimard, réédité par la suite de nombreuses fois en folio essai, et un tirage, me disait un copain, j'espère que le chiffre est bon, mais qui me disait que il avait depuis largement dépassé les 100 000 exemplaires vendus. Tout cela pour dire qu'il a touché donc plusieurs générations. Donc ce livre, je l'ai lu. Et j'ai été complètement donc enthousiasmé. C'était comme une révélation, quasiment presque au sens religieux du terme. Je lisais, je relisais tous les passages qui concernaient Bakounine. Cette passion de Bakounine m'enflammait littéralement. Et quand j'avais fini le livre et que je le refermais, pour moi c'était clair, j'étais anarchiste. Donc la rencontre avec l'idée libertaire, ça peut être, comme dans ce cas-là, ça peut être un livre, ça peut être aussi d'autres circonstances, un mouvement social, par exemple, tout simplement la vie, la nôtre, celle qui est autour donc de la nôtre. Donc plein de choses peuvent amener donc à l'idée libertaire. Moi, ce fut un livre. Et une rencontre donc avec un jeune camarade lycéen anarchiste. Donc les idées, l'idée se confronte à l'expérience, elle se confronte à la vie, elle se confronte aussi à la condition sociale. Il y a comme une interaction entre toutes ces dimensions-là, hein, ce que l'on est comme personne, notre expérience, la vie qu'on mène, la condition sociale qui est la nôtre. Donc tout ça va se mêler intimement pour nous aider à nous façonner donc une idée. Et cette confrontation, cet enrichissement, on va dire, eh bien, va nous amener à élaborer donc notre idée. Et cela donc tout au long de sa vie, ou d'expérience en expérience, de réflexion en réflexion, eh bien on va se construire donc sa façon de voir, comme on dit, on va se construire son une idée, on va se construire sa grille de lecture. Et cela, contrairement, vous savez, à cette chanson de Jean Gabin, il y a bien longtemps, qui était une véritable... on entendait que ça sur les ondes, vous savez, cette chanson qui disait... où on entendait Jean Gabin qui répétait sur un fond musical, et qui concluait ainsi en disant « Je sais qu'on ne sait jamais ». Non, il y a des moments dans la vie où on sait un certain nombre de choses, et ces certitudes deviennent donc des convictions. Et puis les idées, on les reçoit aussi bien sûr par le livre, par la parole aussi, par la discussion, par la rencontre, par les rencontres bien sûr. Et les idées, celles que nous recevons, celles dont nous sommes le réceptacle, eh bien, parfois, elles peuvent amener en nous le doute, elles peuvent amener donc la réflexion, et parfois aussi tout un édifice de certitudes qu'on s'était construit, eh bien, va se lézarder. Et souvent, quand on est dans cette situation-là, à savoir qu'on a été réceptif à une idée qui va lézarder un petit peu tout l'échafaudage théorique, intellectuel qu'on s'était construit, et quand il se lézarde, cet échafaudage-là, qui a été souvent pénible, peut-être... laborieux à construire et qui devient une certitude, eh bien, des fois, une idée ou des idées vont donc percuter cet échafaudage, le lézarder donc, et le doute s'insinue en nous. Tout ce qui était auparavant préalablement établi comme certitude, eh bien, se trouve confronté donc à une autre idée. Et là, le doute va naître, la réflexion donc, et face à cela, il y a diverses attitudes possibles. L'une d'entre elles, et c'est la mienne, c'est que bien souvent, quand je suis déstabilisé par une opinion, par une idée, je vais réagir par le déni, je vais réagir par la colère, je vais réagir par, disons, voilà, le fait de rejeter et de me fermer comme une huître. Et puis ensuite, dans un second temps, et je pense que peut-être qu'un certain nombre d'entre vous sont dans ce cas-là, eh bien, l'idée fait son chemin, on y repense, on réfléchit, on la confronte à ce qu'on croyait définitivement donc établi, et à partir de là, eh bien, on échafaude l'idée, on rebâtit l'idée qu'on avait préalablement auparavant établie, on revient dessus, on la balaye, on la rejette, on l'enrichit, mais en tout cas on pense, on réfléchit, et donc on élabore quelque chose, on est dans une phase d'élaboration, de construction donc d'une nouvelle idée, d'un nouveau point de vue, d'une nouvelle façon de voir les choses. Et à ce titre-là, je le disais la semaine dernière, quand on a la capacité eh bien, d'émettre une idée, de construire une idée, quand on est capable de construire, d'élaborer, eh bien, à ce titre-là, ben, on est des intellectuels, donc comme les autres, au sens de personnes capables d'élaborer une idée et de la partager avec les autres. Mais je ne vais pas vous refaire l'émission de la semaine dernière où, à un moment donné, j'avais... égratigner, pour ne pas dire critiquer, eh bien, les professionnels de la pensée qui sont censés penser et payer pour cela, et donc qui constituent en ce sens une élite. Mais je ne vais pas refaire l'émission de la semaine dernière. Donc ça, c'est un petit peu le préambule. Et déjà, quand j'énonce cela, eh bien, on se rend compte que la définition du sectarisme, la définition du sectarisme, donc qui donne à voir une attitude intransigeante de partisan intolérant d'une opinion, d'un parti, eh bien, c'est notre attitude. Et que cet anathème qui est souvent jeté à la face de l'autre, ou qu'on peut utiliser soi-même, à savoir sectaire, eh bien, me renvoie tout simplement à cette idée-là, c'est que le sectaire, c'est toujours l'autre, bien sûr, c'est jamais soi-même. Et on va revenir un petit peu plus tard, on va juste écouter une chanson et revenir sur cette notion donc de sectarisme. Parce qu'en réalité, je pense que sectaire, au sens premier de la définition, et non pas entouré péjorativement de cette notion qui est proche de secte, secte religieuse ou secte politique, cette notion de sectarisme, cette idée donc de la personne sectaire, eh bien, dans ce sens-là, eh bien, je pense que nous le sommes toutes et tous en réalité. On va écouter un petit morceau de musique donc, et ce qu'on va écouter maintenant, c'est qu'est-ce qu'on va écouter ? Je ne sais même plus ce que j'ai programmé. Donc ce que j'ai programmé et qu'on va écouter maintenant, c'est C'est quoi? Je sais même plus ce que je vous ai proposé. Je crois que j'ai positionné. Oui, c'est La Cabine. Hein. La Cabine qu'on va écouter. C'est du rap. Et c'est un titre qui s'intitule. Qui s'intitule que je retrouve le morceau. Oui, La solidarité est une arme. Donc le groupe La Cabine. À tout de suite, vous êtes bien sur Radio Libertaire, c'est la radio libre de la Fédération anarchiste.
La solidarité est une arme, libérez-les. Au point levé du calibre 12, ma voix pousse les murs, boum, boum. Quand ils envoient leurs troupes à la rescousse.
Ensemble,
c'est ensemble que nous sommes.
Que nous sommes
invincibles, préparés quand ils envoient leurs hommes. En première ligne dehors, sans avoir reçu d'ordre. Ressent le cœur qui cogne pour débrouiller leurs portes.
En 2009, toujours d'actualité. On avance en terrain miné en proclamant la légitimité de la lutte armée. Par tous les moyens nécessaires, frères de nos quartiers populaires. L'autodéfense est un droit, une posture inébranlable. Au même titre que l'amour de la liberté, l'ambiance électrique est palpable. Noyau, cellule, groupe organisé, brigade. Commando autonome, branche musicale de ceux qui ont décidé de résister. Ambiance amicale, esprit de camaraderie. Autogestion, indépendance et autonomie. Réseau clandestin, technique sophistiquée. Infiltration RG, démasqué et ligoté. Commissariat brûlé, bombe artisanale. Vitrine éclatée. Réseau de communication saboté. Acharné, choc frontal éternel. Lutte des classes, méthode ancestrale. Homme politique retrouvé dans le coffre buté. Une balle dans la nuque et dans la poche incommuniquée. Violence à son apogée. Opinion manipulée en état de choc. Tant qu'elle prend sa dose de TV phoque, elle oublie vite qui est à l'origine des hostilités. Dépolitisation alarmante du prolétariat. Spontanéité des masses et morale du révolutionnaire au plus bas. Est-ce que ça justifie de condamner le peu qui brandissent une arme pour lutter? Moi je ne crois pas. En 2009 on assume toujours autant et on refuse de marcher au pas. Les utopistes lèvent le poing, convaincus que la solidarité est une arme. Propos explicites, clairs, limpides, mise à nu de nos cœurs et de nos âmes.
La solidarité est une arme,
libérez-les.
Au point levé du calibre 12, ma voix pousse les murs, boum, boum. Quand ils envoient leurs troupes à la rescousse.
Ensemble,
c'est ensemble que nous sommes.
Que nous sommes
invincibles, préparés quand ils envoient leurs hommes. En première ligne dehors, sans avoir reçu d'ordre. Ressent le cœur qui colle pour défoncer leur.
J'suis pas n'importe quel con, j'veux pas devenir. J'suis déjà quelqu'un, et loin d'être quelconque. Car quand j'tombe, j'suis le seul sans lequel j'compte. Mais c'est ensemble qu'on peut être invincible. Ne plus devenir la cible des flics et autres racistes. Couleur d'affiche, mettre fin à un cycle où on nous dit qu'il en est ainsi. Rallumer l'étincelle. Les devancer, réaliser de belles choses à la De Vinci. Car ici ça taffe à l'intérim, se prive de tout loisir. Et c'est nous que l'on dit oisifs. En somme, nous sommes des bêtes de somme, bonnes qu'à produire.
Va comprendre.
Il est plein, ils sont blindés jusqu'à l'os et c'est eux qu'on plaint. La solidarité est une arme, une larme que l'on retourne contre l'oppresseur. Qui se nourrit des luttes passées de nos prédécesseurs. Je sais, c'est pas facile, mais imagine tout ce qu'on assassine. L'internationaliste et cette team, quand dans sa solitude, l'individu n'entend pas les bombes. Moi je me veux citoyen du monde, adopte l'attitude de ceux qui luttent contre un système qui tue. Ils mondialisent donc on en fait de même. Solidaire de ce qu'on enferme, c'est la parole de ce qu'on veut faire taire. L'Eldorado du clan d'eau traversant terre-mer. Et le jet de ce bourgeois qui peut tout se permettre. Tu connais la devise, on fait pas ça en vain. On rappe pour demain car résister c'est vaincre.
La solidarité est une arme,
libérez-les.
Au point levé du calibre 12, ma voix pousse les murs, boum, boum. Quand ils envoient leurs troupes à la rescousse.
Ensemble,
c'est ensemble que nous sommes.
Que nous sommes
invincibles, préparés quand ils envoient leurs hommes. En première ligne dehors, sans avoir reçu d'ordre. Ressent le cœur qui cogne pour défoncer leurs portes.
Radio Libertaire, il est midi moins 10. Donc sectaire, sectarisme, secte. Alors souvent, évidemment, l'accusation de sectaire vise à décrédibiliser son adversaire ou la personne avec qui on est donc en désaccord. Et je veux dire, renvoie donc à ce mot qui est celui de secte, bien évidemment aussi. Alors, une secte. Et vous le savez, si vous avez eu dans votre entourage quelqu'un qui a sombré effectivement dans les bras d'une secte, c'est quelque chose de terrible. À Sylvie et moi, ça nous est arrivé, hein. Une amie très proche de nous, à un moment donné de sa vie, est tombée dans les bras d'une secte sataniste. Et c'est quelque chose d'assez terrible de voir quelqu'un qui se retrouve donc dans cette logique-là, dans cette prison morale là, à savoir que la personne devient dépouillée de toute capacité à penser, à réfléchir, à être autonome, pour rentrer donc dans une logique de soumission absolue. Donc, en ce sens-là, le mot sectaire, les mots sectaire, sectarisme, revoient donc à secte. Et on le verra, on peut faire aussi un parallèle entre secte à caractère religieux et secte à caractère politique, parce que tout simplement, on l'a vu dans l'histoire, des idéologies autoritaires, des conceptions donc autoritaires, peuvent amener effectivement à ce que des individus, mais là par milliers, par millions aussi, peuvent être donc dépossédés, dépouillés de toute capacité à être des individus autonomes, à penser librement. Et ça, on le vérifie, on l'a vérifié donc tout au long de l'histoire à travers tous les systèmes donc autoritaires. Et puis on peut le vérifier aussi à travers donc des groupes ou groupuscules donc politiques qui vont nourrir ce même type de rapport hiérarchique de soumission avec une idéologie, avec un leader qui est censé donc encadrer donc la pensée de l'individu, si on peut encore parler donc de pensée. Dans le sens du dictionnaire, je disais, on est tous sectaires d'une certaine façon, parce que on va construire une grille de lecture, adopter une morale, adopter donc des principes de vie, principes de pensée, principes de relation avec les autres, principes vis-à-vis d'un projet de société à venir auquel on aspire, et à partir de là, avoir des convictions solides, des convictions sérieuses, qui reposent, donc je me répète, sur une éthique, sur une morale, sur un projet. Et donc, à partir de là, effectivement, on va devenir des individus qui ne vont pas faire de concessions, si ce n'est dans le cas cité plus haut, à savoir que parfois, effectivement, mais quand on est dans le même corpus, on va dire, d'idées, une idée va venir culbuter ce qui était une conception établie pour nous, insinuer en nous le doute, la réflexion et donc tout un processus d'émancipation et donc d'évolution en quelque sorte. Il y a, l'aspect politique de l'aspect donc sectaire au sens secte. Si on regarde un certain nombre de partis politiques inspirés par des idées autoritaires, qui donc va décider, c'est un bureau national, un bureau politique avec un ou des intellectuels, penseurs, leaders qui vont établir donc une analyse, une direction, qui vont être donc incontestables et définir donc une ligne à venir, une ligne politique politique qui ne pourra être que suivie. Et là, on est dans le domaine de l'idéologie que je différencie de l'idée, de l'idée libertaire, par exemple. Si on regarde, par exemple, dans bon nombre de partis politiques, de courants politiques, on va se dire parfois, on va se dire trotskiste avec ses variantes, lambertiste, pabliste, on va se dire maoïste, guévariste, ou de façon plus contemporaine, gaulliste, sarkozyste, chevènementiste, mélenchoniste, et j'en passe. Donc, à chaque fois, donc une façon donc de penser qui positionne l'individu derrière donc un penseur, derrière un leader qui doit être incontesté, bien évidemment. Et les anarchistes, eux, par définition, se donnent les anarchistes. Même si ils vont se référer parfois à des auteurs, à des courants qui vont se décliner là aussi de plein de façons, possibles. Attendez, je suis un petit peu troublé. Ouais, donc de différentes façons, donc différentes tendances, communiste anarchiste par exemple, anarcho-syndicaliste, anarcho-féministe, communiste libertaire, anti-autoritaire, libertaire, acrate, et il y a donc tout un tas de façons donc d'énumérer ces courants, tendances donc de l'anarchisme. Mais toutes ces tendances n'indiquent pas, au contraire, la soumission à une idéologie stricte élaborée par un leader, par un penseur unique. Elles sont souvent l'élaboration d'une idée personnelle qui fait que il y a l'anarchisme, mais il y a aussi des anarchismes, et que chaque anarchiste, eh bien, s'est élaboré, défini, construit lui-même à partir d'une grille de lecture établie donc au fil du temps. On va faire une petite pause et puis il est midi, on va se retrouver juste dans un instant après avoir écouté donc Molodoy, âme errante.
Sur toutes les routes, comme Rimbaud en d'autres temps, parmi les ruines de Beyrouth, à la poursuite du néant. Bon, j'ai régangé des charpés, comme Verlaine bien avant, au printemps, automne comme été. Et même les hivers cinglants. Bon, j'ai chanté sur tous les toits les combats d'une autre vie. Pour ceux qui mènent au nirvana, pour ceux qui poussent à la folie. Bon, j'ai gueulé comme un damné les derniers mots. Condamné comme un fusillé de Goya qui s'époumonne libertat. Donc si j'ai lu plein de romans remplis d'amour, de poésie, non, rien ne vaut un testament. Donc elle remercie la vie. Parmi les ruines
Errante, pardon, le groupe Molodoy. Je discutais un petit peu au téléphone et on me faisait remarquer très justement que quand je dis on a tous, j'aurais dû préciser, et je le pensais en fait, bien sûr, c'est les anarchistes quand je disais on a tous une idée. Et on me faisait remarquer que dans la société, ben non, tout le monde n'avait pas des idées, si ce n'est que les idées ou l'idée, si on peut dire, eh bien, de s'enrichir, de réussir socialement, de réussir professionnellement, mais se désintéresse complètement des idées et propositions qui visent à changer donc la société. Ceux dont je parlais à un moment donné, effectivement, des trotskistes aux gaullistes, aux sarkozistes, ou même, me disait-on, jusqu'aux fascistes, tous ces gens-là, comme nous d'ailleurs, ont un projet de société. Donc fallait le préciser effectivement, hein, quand je disais donc on a tous, je pensais les anarchistes, mais je l'avais pas exprimé. Donc il y a effectivement tout un tas de tendances, on va dire, de tendances politiques, j'entende, qui repose sur la soumission à une idéologie unique, avec un leader, donc souvent le grand penseur, le grand maître à penser, etc., qui va donc tout définir, et qu'on peut parfois rapprocher à une démarche qui est celui effectivement d'une secte politique. Et donc dans l'anarchisme, je le disais, on ne suit pas l'idéologie d'un homme providentiel, même si on peut suivre tel ou tel auteur, mais en général on se place dans la position d'un apport qu'on va recevoir, et un apport qu'on va recevoir de façon critique, qui ne va pas reposer sur la base d'une adhésion aveugle, d'une adhésion formelle, mais bien souvent, puisque on se sera développé, construit pour élaborer soi-même une grille de lecture qui sera la nôtre, eh bien recevoir cette nouvelle idée, cette nouvelle proposition avec toutes les armes de la critique dont on s'est un peu doté. Et ainsi, on est dans une démarche. Alors, cette démarche, est dite comme ça, on la qualifierait donc de non-sectaire, a priori. Elle n'est pas sectaire, effectivement, au sens de l'idée d'une secte religieuse ou secte politique. Mais, comme je le disais tout à l'heure, elle peut être sectaire, parce qu'elle renvoie tout simplement, elle est reçue tout simplement par quelqu'un qui est fort de ses convictions et fort de ses convictions qui a pu donc développer une certaine donc intransigeance qui est souvent donc attaquée, cette intransigeance, et on nous sort toujours des trucs un peu du genre, vous savez, tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir, où on cherche à relativiser. Si tu n'acceptes pas cette relativisation des faits, des événements, des idées, eh bien, te voilà baptisé sectaire. Ben, il se trouve que par définition, un homme, une femme qui a bâti donc des convictions, et en l'occurrence pour ce qui m'intéresse, des convictions libertaires, anarchistes et tout, eh bien, effectivement, est quelqu'un de intolérant. Comment débattre, par exemple, du racisme avec un raciste? Je suis particulièrement intolérant vis-à-vis donc du racisme et des racistes. Comment peut-on être tolérant vis-à-vis de quelqu'un qui va avoir des idées donc par exemple sexistes, homophobes par exemple, comment avoir la quelconque compassion, quelconque volonté de dialogue et de discussion? Non, il y a des moments donnés dans sa vie où on est sur le champ, le terrain de l'affrontement, à savoir que en face de nous on n'a pas quelqu'un avec qui dialoguer, quelqu'un avec qui polémiquer, quelqu'un avec qui échanger, quelqu'un qui pourrait nous enrichir, voire même, comme je le disais tout à l'heure, nous déstabiliser, nous faire douter de notre opinion. Non, on est sur un terrain de combat, on est en guerre d'une certaine façon. Et donc, à partir de là, cette intransigeance-là qu'on manifeste et qui va répondre à une exigence morale, éthique, à une exigence d'émancipation, tout simplement, du respect des individus, eh bien, cette intransigeance va se manifester et être taxée, donc, de sectarisme. Le traditionnel, ouais, avec toi, on ne peut pas discuter. Et pourtant, ce qui fait l'individu, pour moi, eh bien, c'est sa vie, son comportement dans la vie, ses idées, et aussi la capacité à défendre ses idées. Quelqu'un qui est une véritable passoire d'un point de vue des idées, et quelqu'un qui ne sait pas construit, de mon point de vue. C'est quelqu'un qui n'a pas abouti quelque chose, ou même commencé à construire quelque chose pour affirmer des idées, une personnalité. Et ce qui nous est dit souvent, ou ce qu'on peut entendre du moins assez souvent dans la société, bon, il y a ce fameux, je le disais, c'est pas tout noir, c'est pas tout blanc. Parfois, bah oui, il y a des choses qui sont toutes noires, qui sont toutes blanches. Le mal et le bien existent. Pour moi, le nazisme, c'est mal. L'anarchie, c'est bien. Et je ne discute pas du bienfait du nazisme. Par exemple, non, c'est le mal, c'est le noir, c'est la face obscure. C'est tout ce qu'on veut, et ça ne souffre pas la discussion. Et puis l'autre chose qu'on entend bien souvent aussi, ça me rappelle des discussions familiales lorsque j'étais adolescent et que je voulais parler anarchisme, et que le débat s'emballait un petit peu avec la partie le péniste de ma famille. En général, pour mettre fin à la confrontation, il était dit ceci souvent de la part de quelqu'un qui voulait un petit peu tempérer les choses, c'était de dire « Ah, mais faut tout pour faire un monde ». Ce monde, justement, nous voulons le changer. Et ce monde, pour qu'il change, on ne peut pas le faire avec tout le monde, par définition. Mais donc, ça renvoie aussi, ce qu'on me disait au téléphone, à une société où aussi bon nombre de personnes n'envisagent rien, ni en bien, ni en mal. Ce ne sont simplement que des gens qui vivent dans cette société dans le cadre du capitalisme et qui pense avec lui comment réussir, comment s'en sortir, comment se construire une carrière, comment se faire de l'argent en écrasant les autres, souvent. Bref, qui sont complètement impliqués et complètement digérés par donc cette logique capitaliste. L'idée libertaire, pour moi, et je le disais et je l'ai déjà dit dans d'autres émissions, je parle toujours d'idées. Parce que pour moi, l'idée, comme exprimé précédemment, l'idée est quelque chose qui relève de la personne, qui relève de l'individu, qui est lié donc à la vie, qui s'enrichit de la vie, je le disais, qui s'enrichit de plein de façons différentes, rencontres individuelles, sa vie tout simplement, tout cela confronté à d'autres réalités, sa condition sociale, la réalité sociale, etc., pour en arriver donc à un idéal de vie et un idéal de société. Et l'idée, par définition, eh bien, c'est quelque chose de vivant. Or, l'idéologie, pour ma part, c'est quelque chose de mort, c'est quelque chose de mortifère. L'idéologie, elle est figée. L'idéologie, elle appelle à quoi ? Elle appelle souvent à la soumission à cette idéologie-là. Elle n'est pas remise en cause, ou quand on la remet en cause, on devient alors un dissident, mais elle appelle à une soumission, à une abnégation et à un renoncement donc à sa capacité personnelle à élaborer une idée et à se construire, se définir comme personne. Et c'est pour ça que tout à l'heure, j'évoquais donc toutes ces idéologies ou courants politiques qui vont se définir toujours à partir donc d'un homme. Et je dis un homme parce que bien souvent, c'est des hommes, effectivement. Et j'énonçais par exemple le trotskisme, j'énonçais donc le guévarisme, le gaullisme, le sarkozisme, le mélenchonisme, etc. Donc... tout un tas, effectivement, donc de courants politiques qui renvoient donc à la soumission donc à une personnalité, donc souvent homme d'ailleurs, et à l'adhésion donc aux conceptions qui sont les siennes. Après, la nature humaine étant ce qu'elle est, il peut y avoir aussi, bien sûr, des dissidents. Le seul endroit où il n'y a pas de dissidence, c'est effectivement dans la définition sectaire de la religion. Dans la secte, effectivement, on n'existe plus du tout comme individu. Même la petite lumière qui peut s'allumer à un moment quand on est dans un courant sectaire politique et qui font qu'on va réfléchir et qu'on va devenir dissident et qu'on va choisir une autre voie, dans la dimension religieuse, elle n'existe pas. En tout cas, elle est rare. Je dis rare parce que c'est vrai qu'elle peut parfois se manifester donc également. Donc le sectarisme, c'est quelque chose, selon la définition du dictionnaire, toujours bien évidemment, c'est quelque chose qui constitue, je pense, notre être, parce que plus on avance dans la vie, plus on va donc s'enrichir de rencontres, plus la vie va nous apprendre aussi. Eh bien, plus notre grille de lecture va devenir donc précise, va se radicaliser, ce qui ne signifie pas sectarisme au sens péjoratif du terme, mais ce qui signifie tout simplement que tout au long de sa vie, on est dans un processus d'enrichissement, de construction, d'élaboration, où effectivement, et c'est un peu le risque aussi parfois, eh bien, on va devenir de plus en plus précis, et dans la précision de notre pensée, eh bien, on va devenir de plus en plus isolé. Là intervient la notion de sectarisme. On ne peut pas parler, bien évidemment, avec des gens qui sont dans le champ de l'ennemi, parce qu'il faut bien parler aussi comme cela. Nous avons des ennemis que nous combattons et des ennemis qui nous combattent. Mais quand on est dans un champ commun donc d'idées avec des divergences, effectivement, ces divergences, parfois, on peut les faire se confronter, tant qu'elles restent donc dans ce champ commun de pensée. Et donc, à partir de là, on n'est pas dans une logique, effectivement, sectaire au sens péjoratif, mais dans une logique de rencontre, de confrontation, d'élaboration et donc d'évolution. Et c'est ce qui fait d'ailleurs, comme je le répète dans beaucoup d'émissions, que la tradition, si on peut parler de tradition, mais je parlerai plutôt la nécessité du mouvement anarchiste, est de produire beaucoup d'idées, de tous les moyens possibles. Ces idées se confrontent, ces idées font des tendances, ces idées vont provoquer aussi parfois des schismes, vont provoquer des polémiques. Mais en tout cas, à chaque fois et dans tous les cas, ces tendances, ces schismes qui peuvent donc s'opérer, eh bien, se font sur la base d'individus libres qui ont pensé, qui ont donc évolué, qu'on construit, qu'on échafaudé et qui vont se définir de plus en plus et de par cette définition, eh bien, se retrouver sur des positions parfois étroites, parfois radicales. Et tout cela, eh bien, ça fait un courant de pensée, ça fait le mouvement anti-autoritaire, ça fait le mouvement anarchiste, ça fait le mouvement libertaire. Et les choses étant dites de cette façon-là, eh bien, ça ne satisfait pas tout le monde. Parce que souvent, j'ai cette réflexion qui m'est faite, à savoir, déjà, vous êtes un mouvement minoritaire, mais si vous êtes minoritaire, c'est parce que vous êtes divisé, on n'entend jamais la même chose, vous n'êtes d'accord sur rien. Bah, tout simplement, oui, mais tout simplement parce que, par définition, quand on rentre dans la logique de l'idée libertaire, cette logique propulse une dynamique. Cette dynamique, c'est celle de la pensée qui va déterminer l'action dans bien des cas. Mais donc, cette pensée-là, eh bien, elle est vivante, elle est donc dynamique, effectivement, et cela est souvent incompris, je le disais. À savoir que parfois, il m'arrive d'avoir des échos, des discussions ou des réactions, ici même, au studio de la radio, de gens qui déplorent la division du mouvement libertaire. Mais je leur dis, s'il y a autant de tendances, de courants, de références, eh bien, c'est tout simplement, je me répète, eh bien, c'est parce que chacun, chacune a construit, élaboré sur la base de sa pensée, qui est une pensée libre, qui l'amène à un point où d'autres ne sont pas arrivés. Ces points d'arrivée vont se confronter. Mais comme il y a un socle commun, malgré tout, eh bien, ça fait tout ça donc un mouvement. Et cette idée donc d'arriver à une unité est, je pense, dangereux. Parce que l'unité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chacun renonce et qu'on annule en réalité nos convictions. On annule nos convictions pour aller vers une dimension qui se veut donc unitaire. Mais les anarchistes ne sont pas un parti politique où, lorsqu'au moment des élections, par exemple, on essaye d'avoir une démarche unitaire en construisant un consensus possible, les anarchistes ne sont pas bâtis de cette façon-là. Ils sont ancrés sur leur position. Ils défendent leur position, qui vont donc déterminer leur façon d'agir, et ils sont ainsi. Et ça, je pense, on ne peut pas revenir dessus. Il y a eu une célèbre polémique dans le passé du mouvement anarchiste entre l'anarchiste italien Malatesta et Nestor Makhno, qui donc a incarné donc ce mouvement, la Makhnovchina. Et donc il y a eu une grande polémique sur donc l'inefficacité des anarchistes pendant la révolution russe, qu'aurait été plus efficace si ceux-ci s'étaient dotés donc d'une direction. C'est le point de vue de Makhno. Malatesta lui répondant non, un petit peu dans mon sens, à savoir que toute cette diversité du mouvement anarchiste ne peut pas être niée au nom d'une nécessité donc organisationnelle. Mais ça, c'est tout un débat. Et j'en ai débattu même avec des anarchistes, bien évidemment, qui n'avaient pas la même conception que la mienne. Mais en même temps, nous pouvions donc débattre, parce que notre socle commun, c'est la société égalitaire, c'est la société sans État, c'est la société débarrassée du capitalisme, c'est la société émancipée, c'est donc le projet anarchiste. Donc avec une finalité commune, des voies diverses empruntées qui ne sont pas les mêmes et que certains vont dénoncer comme dangereuses alors que d'autres vont les dénoncer comme souhaitables par souci donc d'efficacité. Mais là, on est dans le domaine du débat, on est dans le domaine de l'idée qui se confronte et cela, je l'accepte. Même si je peux être sur des positions fermes dans le débat. On va, il est 25, on va écouter un petit morceau de musique, une petite pause avec Patti Smith. Tiens, on va écouter Patti Smith et se retrouver donc dans quelques instants. C'est bien Radio Libertaire et c'est bien donc l'émission lundi matin.
Jesus died for somebody's sins, but not mine. Milton, pot of thieves, wild cord on my sleeve, thick heart of stone, my sins my own, they belong to me, me. People say beware, but I don't care. The words are just rules and regulations to me, me.
Here she comes, walking down the street. Here she comes, coming to my door.
stadium. Good 20,000 girls called me out to me.
Voilà, Patti Smith, à l'instant sur les ondes de Radio Libertaire. Il est midi 30, c'est l'émission lundi matin. Donc le sectaire, c'est toujours l'autre. Alors j'ai défini un peu tout à l'heure le sectarisme pour moi, à savoir que ça définit tout simplement eh bien, des hommes et des femmes de conviction. Mais après, la conviction en tant que telle n'est pas une valeur en soi, à savoir que toutes les convictions ne se valent pas, bien évidemment. Et que souvent, quand on s'oppose à vous, si vous êtes anarchiste, bien sûr, et qu'on souhaite discuter donc avec vous, en vous invitant à ne pas faire preuve de sectarisme, c'est parce qu'en face de vous, il y a une personne tout aussi sectaire, si elle est porteuse d'une quelconque conviction politique, qui cherche à vous faire changer, d'avis, tout simplement. Donc le sectaire, c'est toujours l'autre. Ainsi, par exemple, dans ces derniers temps, au hasard des discussions, des rencontres, j'ai rencontré un anarchiste de droite. Et oui, ce thème revient souvent de façon récurrente. Hein. Dernièrement, il y avait Valeurs Actuelles qui avait fait un numéro, les anarchistes de droite. Il y a, on m'a dit, je ne l'ai pas lu, un bouquin de Pierre-André Taguieff qui est sorti sur le même sujet-là. Et bref, un jour, j'étais à la librairie Publico et quelqu'un vient me voir en disant « Je suis anarchiste de droite et cherche donc à créer le dialogue. » Et donc, il commence à me parler, donc, pour préciser les choses, pour moi, il n'y a pas d'anarchisme de droite, pas plus qu'il y a d'anarchisme de gauche, même si, je le disais la semaine dernière, il y a un tronc commun du socialisme dont les anarchistes se sont donc affranchis, en quelque sorte, pour bien élaborer leur idée, la leur. Mais, donc, il n'y a pas d'anarchisme de droite. Bien évidemment, celui-ci est incarné par l'antisémite Céline. Et bref, ce personnage là commence à me dire qu'il est anarchiste et qu'il méprise l'humanité, qu'il méprise l'humain, qu'il ne supporte pas cet avilissement de la société autour de lui, tous ces veaux qui l'entourent, etc., pour me développer un élitisme insupportable. Et lorsque je lui dis justement que pour moi il n'y a pas plus d'anarchisme de droite que d'anarchisme de gauche, il me dit mais ne soyez pas sectaire. Ben si, sectaire, à ce moment-là précisément, je le suis et je l'affirme, il n'y a pas, je le disais donc à son encontre, d'anarchisme de droite. Et à l'extrême gauche, par exemple, dans ses différentes composantes, il nous est amené à rencontrer beaucoup plus de gens se situant à l'extrême gauche que chez ces prétendus anarchistes de droite, eh bien, bien souvent, lorsqu'on cherche à rencontrer les anarchistes, à tisser donc un pont entre courants politiques, l'argument qui est avancé, c'est que, à la finale, nous voulons le communisme, nous voulons la société sans classe ni État, et que, après tout, ce n'est qu'une question de moyens pour y parvenir. Et lorsque vous dites que pour vous l'État n'est pas un sujet secondaire dans la discussion, que vous êtes pour la disparition immédiate de l'État, par exemple, eh bien, on va vous renvoyer tout de suite donc à votre sectarisme. Quand vous renvoyez les courants autoritaires du communisme à leur réalisation de société dans l'histoire, ou à leurs pratiques politiques, l'accusation tombe tout de suite, vous êtes donc sectaire. Parce que là aussi, l'accusation de sectarisme vise à vous reprocher une position qui est intransigeante, sur laquelle vous ne pouvez pas faire de concessions. Et c'est pourtant là-dessus qu'on vous attendait, c'était pour que vous fassiez des concessions à votre idée. Et puis également, rencontre, dans la même logique un petit peu, c'était avec donc des militants de la France insoumise. C'était au moment d'une campagne électorale et il me disait, mais les anarchistes devraient venir à la France insoumise. Vous le savez, il y a beaucoup d'anarchistes à la France insoumise. Et il faut être là avec Jean-Luc, etc. Plutôt que de rester donc isolé, de rester seul, etc. Vous pourriez faire une route commune avec nous et venir rejoindre les anarchistes de la France insoumise. Et le fait est qu'une des personnes qui me disait ça était un militant anarchiste qui avait, je dirais, retourné sa veste en quelque sorte pour rejoindre le camp électoral au nom de l'efficacité, notamment. Et une femme me dit, mais vous savez, moi, Louise Michel, c'est quelqu'un d'important pour moi. Et je lui dis, mais vous me parlez d'électoralisme, vous me parlez d'élection, vous me parlez de parti. Alors, je ne l'ai pas sous les yeux, mais je lui ressortais un passage que j'avais à l'époque en mémoire de Louise Michel, où en l'occurrence, Louise Michel dit que les urnes n'ont vomi que de la honte. Et alors évidemment, la gueule, on te tire la gueule et on te traite de sectaire, bien évidemment. Et pourtant, l'anti-électoralisme, dans la pensée anarchiste, est quelque chose, là aussi, de fondamental, on va dire. En principe, d'incontournable, même si des anarchistes cèdent aux sirènes de l'électoralisme, parfois. Et puis, j'ai rencontré aussi, alors on rencontre des gens, un anarcho-chrétien. Alors lui, il vient me voir sur un autre mode, il me vante l'anarchisme, et il me dit, mais vous savez, donc il y a des anarchistes chrétiens, etc. Et d'ailleurs, vous, les anarchistes, êtes les authentiques chrétiens. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu me chantes là ? Et son discours manipulatoire était donc évident, à savoir qu'il voulait fondre l'anarchisme dans une conception donc religieuse, qu'il voulait, de son point de vue, une conception émancipatrice, etc. Et me disait-il, en substance, que la religion, que le christianisme, c'était l'anarchie plus un, étant Dieu. Et donc, à ce stade-là, je mets un peu court à la discussion, je renonce d'une certaine façon. Il me dit, mais faut pas de sectaire. Autre rencontre, encore, un royaliste de gauche. Ah, ça existe, ah oui. Et lui aussi me dit, vous savez, l'anarchisme, tous les royalistes ne sont pas à droite ou à l'extrême droite. Il y a des royalistes qui sont à gauche et qui regardent très positivement le courant anarchiste. Et il m'évoque un petit peu à la façon de cet anarcho-chrétien qui disait que le christianisme, c'était l'anarchie plus un, que le royalisme, c'était l'anarchie plus un. Et pensant sans doute, de son point de vue, avoir fait preuve d'une grande ouverture politique, lorsque je lui ai évoqué, pour ma part, ce que je ressentais par rapport au royalisme, y compris son courant de gauche, qui se disait être l'anarchie plus un, je lui expose en détail en quoi le plus un est quelque chose pour moi d'antinomique. Et là, l'accusation tombe, ah mais vous n'êtes pas ouvert, vous êtes sectaire, on ne peut pas discuter avec vous. Donc on le voit, et je pense qu'on a toutes et tous été confrontés à ce genre de discussion où on voit toujours qu'il y a un attrait pour l'anarchisme dans la société. Mais chacun essayant de combiner cet attrait avec ce qu'il est, et quelque part de vous emmener, de vous entraîner, de vous absorber dans sa conception politique ou sa croyance qui est la sienne. Et je pense que cela est peut-être dû à quelque chose, c'est-à-dire à la perception qu'on a des anarchistes. Alors il y a des perceptions possibles des anarchistes dans la société. C'est des terroristes, c'est de dangereux antifas, c'est bref, c'est les black blocs, c'est donc tout un tas de regards qui sont proposés par les médias et le monde politicien pour faire frémir. Et dans le même temps, il y a un attrait de fait. On aime bien avoir un anarchiste dans son entourage, quelque part. On aime bien avoir des anarchistes avec soi. Si tant est qu'ils se fondent, évidemment, dans un moule qui soit la négation de toute ou partie de leur conception. Mais ça, on y est confronté donc souvent. Et eh bien voilà, quand on s'est construit donc une grille d'analyse qui est la sienne, eh bien on a des convictions et ces convictions vont se heurter à toutes ces tentatives de rapprochement, de récupération, d'assimilation de l'anarchisme. Mais je m'interroge toujours de la part même de gens qui sont objectivement des adversaires et même des ennemis, de l'attrait qu'ils peuvent éprouver pour les anarchistes. Et cet attrait, je le disais, peut reposer sur quelque chose, c'est que l'on voit les anarchistes comme donc parfois des fous dangereux, c'est indéniable, mais aussi parfois comme des gens plutôt braves, illuminés par des idées généreuses, elles le sont, nos idées, elles le sont, hein, généreuses, mais quelque part comme des gens assez inoffensifs, en quelque sorte, pas vraiment finis de faire, qui sont arc-boutés sur tout un tas d'idées ou de propositions généreuses qu'on peut retrouver en partie sur des combats communs, qu'il s'agisse ou qu'il a pu s'agir à un moment donné de lutter pour le droit à l'avortement et la contraception, de lutter contre le nucléaire ou pour quelque autre bonne cause, je dirais. et donc, quelque part, qui potentiellement peuvent représenter une possibilité pour ces gens-là, pour nous, donc, les anarchistes, de rejoindre d'autres courants, d'autres conceptions politiques, bref, d'être un apport numérique, là où il y a un déficit numérique en termes de militantisme. Sur cette base-là, ces gentils utopistes, ces doux rêveurs, etc., amenons-les vers quelque chose de plus sérieux, faisons-les évoluer, débarrassons-les de ces conceptions qu'ils ont utopistes, presque infantiles de la politique, pour les faire rejoindre, nous, des gens sérieux qui avons un parti, un programme, un bureau politique, qui avons des intellectuels qui pouvons faire changer la société. Voilà, donc, et ça, je pense qu'on y a tous été confrontés un jour ou un autre. Et à ce stade-là, je dirais, dans ce qui est dans le cadre de la confrontation des idées, on peut trouver, bien sûr, des amis. Mais on a aussi en face de nous des ennemis. Comment nommer quelqu'un qui développe un concept politique radicalement opposé au tien ? Comment composer politiquement avec les membres d'un parti politique qui appelle à l'électoralisme, alors que nous pensons que l'électoralisme est le moment de la vie politique où les individus sont justement dépossédés de toute leur capacité politique à changer la société, à influencer sur la société ? Comment faire coïncider ces points de vue, c'est absolument évidemment donc impossible. Donc il y a des ennemis et il y a ce que j'appelle aussi les faux amis. Et ces faux amis, faut les nommer, faut les identifier et les nommer pour ce qu'ils sont et après les avoir démasqués, les nommer, les combattre. Et une fois que j'ai dit ça, je pense que on va me dire que je suis sectaire. Il est 1h moins le quart. On va écouter le groupe Cellulix.
Se divertir pendant les congés et se reposer le week-end, toujours subir, se taire par peur du licence. licenciement. Faire tout pour ne pas déplaire à ses collègues du moment. Et à l'occasion faire la grève. N'avoir qu'un salaire de misère pour ses rêves. Payer les traites des prêts, payer les taxes fiscales, cotiser pour la retraite et finir à l'hôpital.
Moi je ne veux pas perdre ma vie à la gagner.
Radio Libertaire, il est 1h moins 10. Enfin, pour terminer, toujours sur le même sujet, autour du même sujet, ce qui m'est retourné parfois, c'est le fait de dire mais comment voulez-vous capter les gens, comment voulez-vous convaincre les gens si vous faites preuve de radicalité dans vos propos, si vous êtes intransigeant, si vous êtes donc sectaire, comment voulez-vous faire venir les gens à vous, me disait-on. Et les gens, bah, faut les faire venir tout doucement, il faut apparaître de façon cachée, dissimulée, et puis petit à petit, etc. Mais la diffusion des idées libertaires, le fait de tenter de convaincre, c'est vrai, ne relève pas de l'attitude d'un pêcheur à la ligne qui veut ferrer un poisson avec un hameçon sur lequel il a dissimulé un ver de terre. Notre parole, enfin, en tout cas, je l'espère, pour beaucoup d'entre nous, notre parole, elle est, certes, je le disais, intransigeante, elle est clairement définie, et elle repose sur un respect, tout simplement. En tout cas, moi, c'est mon cas, quand je m'exprime, je pense être respectueux des gens qui écoutent et qui pourraient, à un moment donné, eh bien, adhérer ou être intéressés par telle ou telle partie de ce que je peux exprimer. Et cela sans volonté de dissimuler, sans volonté de cacher le projet anarchiste, qui est un projet radical. On me dit, mais il ne faut pas dire tout de suite qu'on est contre l'État, et puis il ne faut pas dire tout de suite qu'on est contre la Révolution, ça fait peur aux gens. C'est ce qui m'était dit, hein. Faut pas parler de la Révolution, ça fait peur aux gens. Et j'avais répondu que, certes, l'idée de révolution, même si elle est perçue comme quelque chose de souhaitable par des personnes, cette idée pouvait faire peur. De parce qu'elle suppose, de parce que suppose ce moment révolutionnaire. Mais je disais en même temps, est-ce qu'on peut échapper à cette question ? Évidemment que non. Et si on est anarchiste et qu'on n'est pas un anarchiste ayant des pratiques manipulatoires de l'opinion, eh bien, on dit sincèrement et clairement ce qu'on est aux gens, c'est-à-dire un mouvement révolutionnaire. Un mouvement révolutionnaire. Et cela, je pense, c'est tout simplement respecter les gens. Les partis politiques, quand ils appellent aux élections, eh bien, ne respectent pas les gens, puisqu'ils considèrent qu'en face d'eux, ils n'ont pas des personnes, qu'ils n'ont pas des individus, mais qu'ils ont simplement des électeurs qu'il faut séduire, des électeurs que, oui, il faut ferrer avec un hameçon, avec quelque chose d'aguichant dessus, pour les amener aux urnes. Et ça ne repose pas sur le respect des individus, mais au contraire sur un mépris d'une certaine façon des individus en jouant sur un certain nombre de sensibilités qui peuvent être les leurs. Ce qui fait que d'élection en élection, et là je parle de la gauche au pouvoir, quand elle y arrive, eh bien il y a toujours ce qui suit, c'est-à-dire les déçus de la gauche, parce que, et là je ne vais pas refaire d'autres émissions non plus, eh bien la gestion du capital ne peut se faire que d'une seule façon, c'est la plus sale possible, de la même façon que la guerre ne peut se faire que d'une façon possible, à savoir la plus sale. Donc, je pense que quand les anarchistes s'expriment vraiment en anarchistes, qu'ils exposent leurs idées, eh bien, ils le font avec un respect qui suppose que la personne qui reçoit leurs idées va l'accepter, va la contredire, mais comme individu libre, tout simplement. Donc, pour moi, c'est quelque chose d'important, je pense. Après, on me faisait remarquer que l'autorité pouvait se manifester donc aussi au sein des mouvements anarchistes. Et bien sûr, cette autorité que combattent les anarchistes se manifeste évidemment au sein des courants anarchistes. Et là, j'avais répondu tout simplement quelque chose qui me paraît évident, eh bien, c'est que eh bien, là aussi, il faut combattre l'autorité partout où elle est, partout où elle se manifeste. Et en demain exemple historique où le mouvement anarchiste a été impliqué, et même où a tenu un rôle essentiel, cette question de l'autorité et même cette question du pouvoir n'a pas toujours été résolue. Voilà quelques idées aujourd'hui, quelques réflexions autour donc de cette idée de sectarisme, parce que je le disais en introduction de l'émission, souvent nous sommes traités de sectaires, et combien d'entre nous d'ailleurs n'ont pas utilisé effectivement l'accusation de sectarisme à l'encontre d'autrui. Et donc, je le disais, le sectarisme, si on s'en réfère à la définition du dictionnaire, eh bien, peut aussi nous définir en tant qu'hommes et femmes de conviction, manifestant effectivement une certaine intransigeance avec nos idées, ce qui n'a rien à voir, évidemment, avec la secte religieuse ou la secte politique. Il est 1h05, on va donc écouter un petit peu de musique en attendant nos amis, camarades, Christophe et ses comparses pour l'émission C'est là que ça se passe. Ce sera dans quelques instants qu'on va passer donc en musique. On va écouter, tiens, on va écouter en les attendant un autre titre peut-être de Cellulix. Et puis peut-être un autre titre, s'ils arrivent un petit peu en retard, ils sont pas encore là. Je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, il sera question donc dans l'émission de la rencontre qu'on propose donc à Publico le 21 décembre. C'est un dimanche autour du film La ville est à nous. Il sera donc question du logement, du droit au logement, du squat, donc à travers cette projection et donc de la discussion qui suivra. à la semaine prochaine. Au revoir, n'hésitez pas à nous retrouver sur notre site anarchiste.info. Toutes les émissions de lundi matin, des articles, streaming, podcast. Au revoir, à la semaine prochaine, et donc dans quelques instants, c'est là que ça se passe. Et donc, je vous ai promis Cellulix. On va écouter Cellulix en attendant que les copains de C'est là que ça se passe donc, s'installent. Cellulix pour une autre chanson qui s'appelle Directive 4.
Babylon!